Chers auditeurs, nous allons poursuivre l'histoire de Massargues, village médiéval. Vous nous disiez hier, Samuel, qu'Uzès était divisé en deux parties.
Il y a une partie qui appartient à la famille d'Uzès, qui deviendront les ducs d'Uzès, donc qui correspond maintenant au château ducal, et l'autre partie qui appartient aux Sabrans, qui est une très grande famille, qu'on appelle les grands féodaux du Languedoc, et vraiment divisé en deux, coupé en deux. Il y avait la moitié sud qui appartenait aux Sabrans, et la moitié nord à la famille d'Uzès. Et d'ailleurs, cette division en deux, on l'a eu encore très récemment, puisque le bourg Saint-Firmin, qui existait jusqu'au XVIIe siècle, à 500 mètres au nord d'Uzès intramuros, avait repris le territoire du Carton de la famille d'Uzès, puisque jusqu'au XVIIe siècle, la commune de Saint-Firmin était distincte de la commune d'Uzès, et la commune d'Uzès était atrophiée, puisqu'en fait, elle n'avait pas toute sa partie nord, qui correspondait à l'ancien Carton. Et un des quartiers urbains, c'est comme ça qu'il a été conçu, de la cité médiévale d'Uzès. Et on a là, en fait, à ma connaissance, le seul exemple archéologique en France de quartier d'une ville médiévale qui soit plus occupé de nos jours.
Si Uzès avait conservé tous ses cartons, tous ses quartiers, ce serait une très grande ville de nos jours.
Alors, c'est difficile à dire, parce que là, on est vraiment avec Massargues dans ce qu'on appelle une thématique qui intéresse énormément les chercheurs, les médiévistes depuis toujours, qui s'appelle la fabrique de la ville, donc comment la ville médiévale s'est constituée. Sa division des cartons, telle qu'on la voit à Uzès, pour les 12e, 13e siècles, quelque chose de très attendu, fait penser tout de même à une cité très importante. On ne connaît pas la superficie de toutes ces entités, mais par exemple, Uzès intramuros à cette époque-là, donc avec les remparts, faisait à peu près 10 hectares. Si on rajoute le bourg Saint-Firmin, qui appartenait à cette ville multipolaire, donc à 500 mètres au nord d'Uzès, on est à 3 hectares d'après la topographie. Il y avait Saint-Féréol qui faisait un peu le pendant du bourg Saint-Firmin à 500 mètres au sud d'Uzès, peut-être 3 hectares. Saint-Quentin, ce sort d'agglomération de la noblesse locale, 3 hectares. Massargues, 3 hectares. Tous ces pôles réunis, sans compter l'agglomération de Poitiers qui dépendait à Saint-Victor-des-Aulles, qui dépendait de la juridiction de Massargues, je pense qu'on peut arriver en tout dans les 22-25 hectares. À titre de comparaison, la ville médiévale de Montpellier, qui est considérée comme la plus grande ville médiévale de France après Rouen et Paris, ces remparts construits au début du XIIIe siècle délimitaient une emprise de 45 hectares. Et apparemment, d'après ce qu'on peut en voir de la topographie médiévale, je ne serais pas étonné qu'il n'y ait à peu près que la moitié, 25-30 hectares, qui soient clairement bâtis dans l'enceinte de Montpellier-Rennes. En fait, on pourrait être quasiment à l'équivalent de Montpellier.
Comment ce bourg médiéval a-t-il pu disparaître en totalité et du jour au lendemain ?
Bon, ça c'est une question, on va essayer d'y répondre avec la fouille, parce qu'il faut reconnaître que les textes sont très peu loquaces sur la disparition de Massargues. Ce qu'on voit, c'est qu'à partir de la fin du XIIIe siècle, on n'a plus d'attestation de Massargues dans les textes, et vraiment assez subitement. Dans le courant du XIIIe siècle, on voit de nombreux notables de Massargues qui sont attestés auprès de l'entourage de l'évêque, en tant que notaire, mais vraiment des notaires qui avaient une place visiblement très importante vu les affaires qu'ils pouvaient traiter. À la fin du XIIIe siècle, plus d'évocation du bourg, ça donne vraiment l'impression de quelque chose qui disparaît subitement, et il est vrai qu'en archéologie, on n'a plus rien à l'emplacement du bourg. On aurait pu avoir encore un embryon de hameau, un peu quelques maisons. J'ai une hypothèse assez récente, mais qui mérite d'être développée. Bon, il y a un échange très important en 1291, mais on sait qu'à la fin du XIIIe siècle, le roi de France finit par mettre la main sur Massargues, qui à l'origine était certainement une création du comte de Toulouse. C'est pour ça qu'on l'appelait le quartier, le carton de Raymond, du nom de la maison Raymondine à Toulouse. Et donc par un échange de biens, le roi de France possessionnait à Massargues, échange Massargues en 1291 contre les Salins, les Péquets d'Aigues-Mortes, qui à l'époque était aux mains, en partie, par la famille d'Uzès. Donc en 1291, la famille d'Uzès se retrouve possessionnée à Massargues et aussi récupère toute la juridiction, tout le territoire de Massargues, dont Saint-Victor-des-Oules. puisque les textes disent « Dans la juridiction de Massargues se trouvent les houles et les fours à faire les houles », qui était une très grande partie de l'économie usacienne. Et c'est à partir de là, de cet échange, que Massargues disparaît. Donc on est tenté d'y voir un lien, et 2 ans après, une ville neuve est créée à Uzès, certainement en accord entre l'évêque et le roi de France, un peu à l'image de la ville neuve de Villeneuve-les-Avignon. Villeneuve qui a totalement disparu, hein. Maintenant c'est des quartiers qui ont... Villeneuve qui a disparu totalement au XVIIIe siècle, et il serait possible que la population de Massargues ait été délocalisée à Uzès, peut-être de façon plus ou moins contrainte. En tout cas, c'est des exemples qu'on connaît. On connaît des exemples dans l'histoire du sud de la France, de Villeneuve, où la population est délocalisée vers une autre Villeneuve. Parce que comme toute Villeneuve, Massargues était certainement une zone d'immunité, qui avait un certain nombre d'avantages, fiscaux notamment, et c'est comme ça qu'on arrivait à attirer les populations dans ces Villeneuve. Donc peut-être qu'ils avaient perdu un certain nombre d'avantages, qu'ils allaient retrouver à Uzès. Bon voilà, c'est encore des questions qui se posent.
Justement, où en sont les fouilles actuellement et qu'avez-vous déjà mis à jour ?
Donc après le sondage de 2004 sur 4 mètres carrés qui avait révélé la présence d'une maison à Massargues, on a fait une première campagne de fouilles en 2018 pour vérifier l'hypothèse de la présence d'une ville neuve. On a dégagé, donc à l'aide d'une dizaine d'étudiants, une petite partie du site et les résultats ont été très, très probants en ce qu'ils ont permis de mettre en évidence un plan régulateur. C'est-à-dire qu'on n'est pas vraiment dans une organisation villageoise où les maisons sont construites au fur et à mesure de l'occupation. Là, on a vraiment un plan initial, régulateur, avec un bornage, des lots à bâtir et un quadrillage plus ou moins régulier en îlot. En tout cas, un plan typique des Villeneuve, tel qu'on connaît à l'instar des Bastides de la région toulousaine, ces Villeneuve créées par le comte de Toulouse. Donc ça a vraiment confirmé l'idée que Massargues appartenait à cette catégorie des Villeneuve.
D'accord. Vous avez trouvé des objets aussi
On a eu très peu de moyens, la fouille était vraiment un premier jet. Donc on a surtout dégagé les murs et on a très peu fouillé les niveaux archéologiques.
D'accord. Et là, vous allez reprendre ces fouilles? Comment cela va s'organiser? Quels sont vos projets?
Donc notre objectif... C'est des fouilles qui sont portées par l'association qui s'appelle l'USEJ, qui a un but, qui fait énormément de travaux sur le patrimoine dans la région d'Uzès. Et donc, dans ce cadre associatif, avec l'autorisation du ministère de la Culture et de la DRAC, bien sûr, on compte reprendre les fouilles à partir de l'été 2022, de façon à réunir suffisamment de moyens pour s'assurer une continuité des fouilles sur plusieurs étés. Parce que c'est des fouilles à l'aide d'étudiants en archéologie, mais qui réunissent surtout des bénévoles. Et pour qu'on ait des résultats significatifs, il faut vraiment qu'on puisse assurer la poursuite des fouilles sur au moins 3 étés, même, je dirais, au moins 6 étés consécutifs. Le terrain n'est pas facile, on est en pleine garrigue, il y a des souches qui ont envahi tous les murs, donc pour le faire soigneusement, il faut qu'on coupe les souches, qu'on enlève tous les niveaux d'effondrement qui masquent les murs. C'est beaucoup de travail pour arriver à dégager ce site qui, par contre, est très bien conservé. Il est vrai que tous les murs sont conservés, qu'on a quand même la chance d'avoir un habitat bien conservé par rapport à ce qu'on peut connaître des habitats villageois en Languedoc, où les quelques fouilles qui les ont révélées montrent souvent, malheureusement, des choses très arasées. On a souvent que les fondations de murs.
Monsieur Longepierre, je vous remercie infiniment pour toutes ces explications et je pense que vous aurez réveillé beaucoup de passion puisque c'est à la fois archéologique mais surtout historique aussi.
Pour soutenir un tel projet de fouille et toute sa logistique, vous avez déjà l'aide de l'association l'USEJ qui s'est passionnée pour votre projet. J'espère que les adhérents actuels et futurs seront se motiver. Et nos auditeurs aussi.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup, merci de m'avoir invité.